test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre une jeune femme parler du premier voyage qu'elle a fait sans ses parents. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à K pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Mes premières vacances sans mes parents, alors j'étais un peu âgée, hein, j'avais je crois 19 ans. C'est la première fois que je suis partie en vacances avec ma meilleure amie, avec les sacs à dos. On a pris nos sacs à dos, on a pris l'avion, on est atterri à Amsterdam. On a passé quelques jours là-bas, on a visité les musées, musée d'art moderne je crois aussi, dans une auberge de jeunesse qui était sympa, qui était pas trop chère. The Flying Pig, c'était le nom de l'auberge. Et on a pris ensuite le train, ça a duré une éternité, pour aller à Copenhague. Et en fait, c'est un train qui s'arrête sous un bateau. Il arrive dans le bateau et on prend le bateau, on est dans le train. Nous, on le savait pas et on s'est retrouvés toutes bizarres. Les gens sont sortis du train, on ne comprenait pas pourquoi. On s'est retrouvés sur un bateau et on est arrivés à Copenhague, donc avec notre sac à dos, notre tente. Et on est allé dans un camping. Il faut savoir qu'on est allé au mois d'août. Et au mois d'août, au Danemark, c'est l'automne. C'est plus l'été. Donc on a eu super froid. Il faisait un froid de canard. On dormait avec tout ce qu'on pouvait, complètement habillé, les chaussettes, le pull, le t-shirt, tout. On a eu même une mini tempête où l'eau s'est infiltrée dans la tente. Donc toutes nos affaires ont été trempées. Et puis on s'est dit, on va partir à l'étranger, on va faire la connaissance de plein de gens, de Danois, ça va être super. Et finalement, on a fait la connaissance de Français, parce que il y avait plus personne. Au mois d'août, mi-août, au Danemark, c'est l'école qui recommence, il y a plus beaucoup de touristes. Donc on s'est retrouvés au camping avec trois autres Français qui passaient leurs vacances ici. On a visité pas mal de choses, on a été... il y a eu un peu le choc des cultures puisque nous on est arrivés avec notre sac à dos, nos pantalons larges, les chaussures de marche confortables quoi, comme on fait quand on part en sac à dos en vacances avec un sac à dos, et on s'est retrouvés Copenhague, c'est joli, les gens sont très chics, donc du coup on ne pouvait pas vraiment sortir parce qu'on n'avait pas les vêtements adéquats. Mais on a fait pas mal de visites. On a même pris le bateau pour aller à Malmö en Suède. Et là aussi, on a eu très très froid. Le camping était désert. On a eu un peu peur aussi la nuit parce qu'il y avait des petits animaux qui se baladaient, qui ont mangé une moitié de notre ration qu'on gardait dehors. Mais c'était quand même sympa. J'en garde un bon souvenir, une bonne expérience. C'était crevant, on n'a pas beaucoup dormi parce qu'on a pas mal fait la fête aussi. On a beaucoup marché avec nos sacs à dos qui pesaient 60 kilos chacune, je crois. Non, j'exagère, on va dire 20 kilos à peu près. Mais c'était mes premières vacances sans mes parents, voilà. Mes premières vacances sans mes parents, alors j'étais un peu âgée, hein, j'avais je crois 19 ans. C'est la première fois que je suis partie en vacances avec ma meilleure amie, avec les sacs à dos. On a pris nos sacs à dos, on a pris l'avion, on est atterri à Amsterdam. On a passé quelques jours là-bas, on a visité les musées, musées d'art moderne, je crois aussi, dans une auberge de jeunesse qui était sympa, qui était pas trop chère. The Flying Pig, c'était le nom de l'auberge. Et on a pris ensuite le train, ça a duré une éternité, pour aller à Copenhague. Et en fait, c'est un train qui s'arrête sous un bateau. Il arrive dans le bateau et on prend le bateau, on est dans le train. Nous, on le savait pas et on s'est retrouvés toutes bizarres. Les gens sont sortis du train, on ne comprenait pas pourquoi. On s'est retrouvés sur un bateau et on est arrivés à Copenhague, donc avec notre sac à dos, notre tente. Et on est allé dans un camping. Il faut savoir qu'on est allé au mois d'août. Et au mois d'août, au Danemark, c'est l'automne. C'est plus l'été. Donc, on a eu super froid. Il faisait un froid de canard. On dormait avec tout ce qu'on pouvait, complètement habillé, les chaussettes, le pull, le t-shirt, tout. On a eu même une mini tempête où l'eau s'est infiltrée dans la tente. Donc, toutes nos affaires ont été trempées. Et puis on s'est dit, ben on va partir à l'étranger, on va faire la connaissance de plein de gens, de Danois, ça va être super. Et finalement, ben on a fait la connaissance de Français parce que ben il y avait plus personne au mois d'août, mi-août au Danemark, ben c'est l'école qui recommence, il y a plus beaucoup de touristes. Donc on s'est retrouvé au camping avec trois autres Français qui passaient leurs vacances ici. On a visité pas mal de choses, on a été il y a eu un peu le choc des cultures, puisque nous on est arrivés avec notre sac à dos, nos pantalons larges, les chaussures de marche confortables, quoi, comme on fait quand on part en sac à dos en vacances avec un sac à dos. Et on s'est retrouvés, Copenhague, c'est joli, les gens sont très chics. Donc du coup, on ne pouvait pas vraiment sortir parce qu'on n'avait pas les vêtements adéquats. Mais on a fait pas mal de visites. On a même pris le bateau pour aller à Malmö en Suède. Et là aussi, on a eu très très froid. Le camping était désert. On a eu un peu peur aussi la nuit parce qu'il y avait des petits animaux qui se baladaient, qui ont mangé une moitié de notre ration qu'on gardait dehors. Mais c'était quand même sympa. J'en garde un bon souvenir, une bonne expérience. C'était crevant, on n'a pas beaucoup dormi parce qu'on a pas mal fait la fête aussi. On a beaucoup marché avec nos sacs à dos qui pesaient 60 kilos chacune, je crois. Non, j'exagère, on va dire 20 kilos à peu près. Mais c'était mes premières vacances sans mes parents, voilà.
Exercice 2. Vous allez entendre 5 personnes donner leur opinion sur l'ouverture des magasins le dimanche. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, reliez les personnes interviewées avec leurs affirmations A à J. Il y a 2 affirmations dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses. personne une.
Moi, je suis plutôt pour l'ouverture des magasins. Par exemple, en France, les boulangeries sont ouvertes le dimanche matin. Dans la ville d'où je suis en France, c'est ouvert le dimanche après-midi, pendant les vacances, parce qu'il y a des touristes. Donc, je pense que c'est une bonne idée dans des villes où il y a des gens qui viennent en vacances d'avoir les magasins ouverts le dimanche.
Personne 2.
Je suis plutôt contre l'ouverture des magasins le dimanche. Je perçois bien les avantages d'une ouverture le dimanche, notamment pour les travailleurs qui ont des emplois du temps chargés en semaine. Mais je continue, ou je fais partie de ces personnes qui apprécient la tranquillité des dimanches dans les villes. Je pense que ça leur donne un autre charme et surtout un autre visage. Le dimanche, c'est un moment où les rues commerçantes, enfin, ne sont plus des rues où l'on joue des coudes. Non, ce sont des rues plutôt vides, où tout est fermé et ça fait du bien.
Personne 3.
Bon ben moi, j'habite en Autriche actuellement et je trouve que c'est assez désagréable que les magasins ne soient pas ouverts le dimanche. Le matin, par exemple, j'aimerais bien pouvoir acheter ce dont j'ai besoin, quelque chose à manger, par exemple. Et puis l'après-midi, quand samedi, j'aimerais bien aussi pouvoir faire les courses, faire du shopping, comme on dit, peut-être acheter des vêtements, etc. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment très difficile. Il y a quelques supermarchés d'ouverts, mais sinon, pratiquement tout est fermé, malheureusement.
Personne 4.
Oh, je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche parce que je suis d'avis que les gens travaillent assez et que les clients peuvent faire leurs courses pendant la semaine. En général, les magasins en France sont ouverts jusqu'à 20 heures. Donc, je pense que c'est suffisant, qu'il y a assez d'horaires agréables pour faire ses courses et que ce n'est pas nécessaire de faire ses courses le dimanche. En plus, ce n'est absolument pas un avantage pour les gens qui travaillent, surtout pour les femmes qui ont des enfants et qui devront laisser leurs enfants à la maison, qui auront des problèmes de garderie supplémentaires. Et de plus, elles ne gagneront pas tellement plus en salaire.
Personne 5.
Moi, personnellement, je suis très favorable à l'ouverture des magasins le dimanche, mais uniquement dans les zones les plus touristiques, notamment les centres-villes, les bords de mer, la montagne, les endroits les plus fréquentés par les touristes. Touristes qui sont prêts à dépenser leur argent n'importe quel jour de la semaine et même éventuellement la nuit. On pourrait aussi éventuellement ouvrir la nuit pour plus de magasins dans les endroits les plus fréquentés.
Personne 1.
Moi, je suis plutôt pour l'ouverture des magasins. Par exemple, en France, les boulangeries sont ouvertes le dimanche matin. Dans la ville d'où je suis en France, c'est ouvert le dimanche après-midi, pendant les vacances, parce qu'il y a des touristes. Donc, je pense que c'est une bonne idée dans des villes où il y a des gens qui viennent en vacances d'avoir les magasins ouverts le dimanche.
Personne 2.
Je suis plutôt contre l'ouverture des magasins le dimanche. Je perçois bien les avantages d'une ouverture le dimanche, notamment pour les travailleurs qui ont des emplois du temps chargés en semaine. Mais je continue, ou je fais partie de ces personnes qui apprécient la tranquillité des dimanches dans les villes. Je pense que ça leur donne un autre charme et surtout un autre visage. Le dimanche, c'est un moment où les rues commerçantes, enfin, ne sont plus des rues où l'on joue des coudes. Non, ce sont des rues plutôt vides, où tout est fermé et ça fait du bien.
Personne 3.
Bon ben moi, j'habite en Autriche actuellement et je trouve que c'est assez désagréable que les magasins ne soient pas ouverts le dimanche. Le matin, par exemple, j'aimerais bien pouvoir acheter ce dont j'ai besoin, quelque chose à manger, par exemple. Et puis l'après-midi, quand samedi, j'aimerais bien aussi pouvoir faire les courses, faire du shopping, comme on dit, peut-être acheter des vêtements, etc. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment très difficile. Il y a quelques supermarchés ouverts, mais sinon, pratiquement tout est fermé, malheureusement.
Personne 4.
Oh, je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche parce que je suis d'avis que les gens travaillent assez et que les clients peuvent faire leurs courses pendant la semaine. En général, les magasins en France sont ouverts jusqu'à 20 heures. Donc, je pense que c'est suffisant, qu'il y a assez d'horaires agréables pour faire ses courses et que ce n'est pas nécessaire de faire ses courses le dimanche. En plus, ce n'est absolument pas un avantage pour les gens qui travaillent, surtout pour les femmes qui ont des enfants et qui devront laisser leurs enfants à la maison, qui auront des problèmes de garderie supplémentaires. Et de plus, elles ne gagneront pas tellement plus en salaire.
Personne 5.
Moi, personnellement, je suis très favorable à l'ouverture des magasins le dimanche, mais uniquement dans les zones les plus touristiques, notamment les centres-villes, les bords de mer, la montagne, les endroits les plus fréquentés par les touristes. Touristes qui sont prêts à dépenser leur argent n'importe quel jour de la semaine et même éventuellement la nuit. On pourrait aussi éventuellement ouvrir la nuit pour plus de magasins dans les endroits les plus fréquentés.
Exercice 3. Vous allez entendre un homme parler d'une expérience à Paris. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte, A, B, C ou D, pour chaque question 1 à 9. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Alors, je dois raconter aujourd'hui la dernière fois, le dernier voyage que j'ai fait à Paris. Quand je vais à Paris, naturellement, d'habitude, je dors chez des amis, parce que j'ai des amis à Paris. Et la dernière fois que j'y suis allé, mes amis étaient absents. J'ai donc dû réserver une chambre à l'hôtel. Donc, quand je réserve une chambre à l'hôtel, je vais sur Internet. Et quand c'est à Paris particulièrement, je réserve aussi une place de parking. Parce qu'à Paris, pour se garer avec sa voiture, c'est impossible. Donc, je réserve toujours ma place de parking. Donc, je suis arrivé à Paris, je trouve mon hôtel avec un petit peu de difficulté, je trouve le parking, je rentre avec la voiture, et là, le parking était complet, bien que j'avais réservé. Donc, j'étais assez mécontent, je suis ressorti, sorti du parking, et j'ai cherché une place pour me garer. Donc, j'ai fait un tour du quartier, pas de place, bien sûr, parce qu'il était 19h, il n'y a plus de place disponible. Donc, j'ai réussi à me trouver, à me garer, mais tellement loin que pour... retourner à l'hôtel, j'ai dû prendre le métro. Donc je suis finalement arrivé à l'hôtel, je crois, une demi-heure après être rentré dans le parking avec ma voiture. J'arrive à la réception de l'hôtel, personne. La réception était inoccupée, donc j'attends un petit peu, je me dis bon, il y a quelqu'un qui va arriver, il y avait une sonnette, je sonne, gling gling, à la réception, et là il y a le réceptionniste qui est arrivé, et je crois qu'il était en train de manger parce qu'il mâchait quelque chose, il avait un peu de nourriture au coin de la bouche. Donc j'ai eu une très mauvaise impression de cet hôtel quand je suis arrivé. Donc c'était le deuxième point négatif de ma soirée à Paris. Alors je reçois ma chambre et je demande, avant de recevoir ma chambre, je demande d'obtenir une chambre calme. Parce que toujours je prends le soin de demander une chambre calme. Alors le réceptionniste me dit « Ok, j'ai une chambre calme pour vous ». Je reçois ma clé, je monte dans l'ascenseur, j'arrive à mon étage. Quand je sors de l'ascenseur, je m'aperçois que la chambre est juste à côté de l'ascenseur. Et on sait que dans les hôtels, c'est l'endroit le moins calme possible. Donc, je suis pas content, je redescends à la réception, je vais voir le réceptionniste, je lui redonne ma clé, et je lui dis, excusez-moi, je voudrais une chambre calme, et cette chambre est probablement pas très calme à côté de l'ascenseur. Il me dit, ah, ok, d'accord, j'ai une chambre pour vous, mais une chambre supérieure, et il faut payer un supplément. Alors là, je refuse, et je prends quand même la chambre qu'il m'avait donnée au début. Et donc, je m'inquiète de la nuit que je vais passer. Donc, une fois dans la chambre, bon, c'était assez calme. J'ai quand même eu des difficultés à m'endormir parce que le voisin de la chambre d'à côté regardait la télévision et il écoutait la télévision assez fort, donc j'ai eu du mal à m'endormir. Mais finalement, tout s'est bien passé, je me suis endormi. Mais vers 2 ou 3 heures du matin, il y a des gens qui sont rentrés et il y a un groupe de personnes devant l'ascenseur qui s'est mis à discuter. Donc moi, ça m'a réveillé. Donc j'ai été réveillé, je crois, vers 2 ou 3 heures du matin. Et j'ai pas pu m'endormir. Et je crois que ça a été la plus mauvaise expérience d'hôtel que j'ai fait. Et je crois que je ne reviendrai plus jamais dans cet hôtel. Alors, je dois raconter aujourd'hui le dernier voyage que j'ai fait à Paris. Quand je vais à Paris, naturellement, d'habitude, je dors chez des amis, parce que j'ai des amis à Paris. Et la dernière fois que j'y suis allé, mes amis étaient absents. J'ai donc dû réserver une chambre à l'hôtel. Donc, quand je réserve une chambre à l'hôtel, je vais sur Internet. Et quand c'est à Paris particulièrement, je réserve aussi une place de parking. Parce qu'à Paris, pour se garer avec sa voiture, c'est impossible. Donc, je réserve toujours ma place de parking. Donc, je suis arrivé à Paris, je trouve mon hôtel avec un petit peu de difficulté, je trouve le parking, je rentre avec la voiture, et là, le parking était complet, bien que j'avais réservé. Donc, j'étais assez mécontent, je suis ressorti du parking, et j'ai cherché une place pour me garer. Donc, j'ai fait un tour du quartier, pas de place, bien sûr, parce qu'il était 19h, il n'y a plus de place disponible. Donc, j'ai réussi à me garer, mais tellement loin que pour... retourner à l'hôtel, j'ai dû prendre le métro. Donc je suis finalement arrivé à l'hôtel, je crois, une demi-heure après être rentré dans le parking avec ma voiture. J'arrive à la réception de l'hôtel, personne. La réception était inoccupée, donc j'attends un petit peu, je me dis bon, il y a quelqu'un qui va arriver, il y avait une sonnette, je sonne, gling gling, à la réception, et là il y a le réceptionniste qui est arrivé. Et je crois qu'il était en train de manger parce qu'il mâchait quelque chose, il avait un peu de nourriture au coin de la bouche. Donc j'ai eu une très mauvaise impression de cet hôtel quand je suis arrivé. Donc c'était le deuxième point négatif de ma soirée à Paris. Alors je reçois ma chambre et je demande, avant de recevoir ma chambre, je demande d'obtenir une chambre calme. Parce que toujours je prends le soin de demander une chambre calme. Alors, le réceptionniste me dit « Ok, j'ai une chambre calme pour vous ». Je reçois ma clé, je monte dans l'ascenseur, j'arrive à mon étage. Quand je sors de l'ascenseur, je m'aperçois que la chambre est juste à côté de l'ascenseur. Et on sait que dans les hôtels, c'est l'endroit le moins calme possible. Donc, je suis pas content, je redescends à la réception. Je vais voir le réceptionniste, je lui redonne ma clé et je lui dis « Excusez-moi, je voudrais une chambre calme et cette chambre est probablement pas très calme à côté de l'ascenseur. » Il me dit « Ah, ok, d'accord, j'ai une chambre pour vous, mais une chambre supérieure et il faut payer un supplément. » Alors là, je refuse et je prends quand même la chambre qu'il m'avait donnée au début. Et donc, je m'inquiète de la nuit que je vais passer. Donc, une fois dans la chambre, bon, c'était assez calme. J'ai quand même eu des difficultés à m'endormir parce que le voisin de la chambre d'à côté regardait la télévision et il écoutait la télévision assez fort, donc j'ai eu du mal à m'endormir. Mais finalement, tout s'est bien passé, je me suis endormi. Mais vers 2 ou 3 heures du matin, il y a des gens qui sont rentrés et il y a un groupe de personnes devant l'ascenseur qui s'est mis à discuter. Donc moi, ça m'a réveillé. Donc j'ai été réveillé, je crois, vers 2 ou 3 heures du matin et j'ai pas pu m'endormir. Et je crois que ça a été la plus mauvaise expérience d'hôtel que j'ai fait. Et je crois que je ne reviendrai plus jamais dans cet hôtel.
Exercice 4. Vous allez entendre Dominique Meyer, le directeur de l'Opéra National de Vienne. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 7 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Alors, il y a évidemment d'autres choses que nous faisons. Il y a un programme pour enfants. Moi, je crois qu'il faut intéresser les enfants. Et ils sont très faciles à intéresser. Ils n'ont pas les obstacles créés parfois par les connaissances et par la culture. Ils sont plus ouverts. Si ça leur plaît, ils applaudissent. Voilà. Et les petits-enfants sont très, très amoureux de l'opéra. Ils trouvent ça merveilleux. Déjà, ils sont très étonnés de rentrer dans une salle de spectacle et de voir qu'il y a des chanteurs qui puissent chanter dans un lieu aussi immense sans microphone. Voilà. C'est pas comme les chanteurs de rock. Le chanteur d'opéra a une voix très puissante. Et même s'il y a un orchestre comme les Wiener Philharmoniker qui joue très fort, ils peuvent s'adresser à toute la salle sans aucun microphone. Et donc, nous avons ici, chaque année... 45 représentations d'opéra créées spécifiquement pour les enfants. Ce sont des œuvres qui sont courtes, qui ne durent pas une heure. Donc on sait que c'est la limite d'attention pour un enfant, trois quarts d'heure, une heure. Et ce sont des sujets qui les intéressent et qui peuvent aussi donner lieu ensuite dans les écoles à des discussions. Et puis une fois par an, le lendemain de l'Open Ball, nous utilisons la grande salle de bal, donc décorée encore, pour faire deux représentations de la flûte enchantée pour les enfants. Avec le meilleur orchestre du monde, les Wiener Philharmoniker, les meilleurs chanteurs de l'ensemble, et une jolie mise en scène. Et il y a comme ça 7000 enfants qui peuvent assister chaque année à cette flûte enchantée pour les enfants. Et puis nous avons, pour les spectacles du soir, tout un tas de systèmes, par exemple des places à prix réduit pour les enfants et pour les étudiants. C'est très facile, il suffit que vos parents, par exemple, s'en occupent, ou que vous-même, d'ailleurs. Hein, quand on est adolescent, on peut s'en occuper soi-même. Moi, quand j'avais 18 ans, j'allais à l'opéra tout seul. S'intéresse à ces prix spéciaux. Et puis récemment, nous avons aussi développé un nouveau système. Alors ça, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un système de diffusion de l'opéra par Internet. Il y a un site, la Wiener Staatsoper, sur lequel on peut acheter des retransmissions d'opéra. Et ce système nous permet cette année, par exemple, de diffuser en haute définition et parfois dans le nouveau standard de ultra haute définition, UHD, 4K, 47 représentations d'opéra et de ballet. Et donc c'est un système merveilleux qui nous permet de nous adresser à tout le monde, pas seulement aux gens qui habitent Vienne ici, mais aussi aux gens qui habitent Vorarlberg ou aux gens qui habitent en Amérique du Sud, dans un petit village ou dans une vallée suisse où il n'y a pas d'autres distractions. On peut trouver nos représentations d'opéra. Et depuis peu, nous avons développé, avec ce système de streaming, un mécanisme qui nous permet aussi de créer des programmes pour les enfants des écoles. La semaine dernière, par exemple, nous avons fait un show stream et il y avait une quarantaine d'écoles qui étaient connectées, une quarantaine d'écoles autrichiennes et d'ailleurs d'écoles aussi à l'étranger. Alors, il y a évidemment d'autres choses que nous faisons. Il y a un programme pour enfants. Moi, je crois qu'il faut intéresser les enfants. Et ils sont très faciles à intéresser. Ils n'ont pas les obstacles créés parfois par les connaissances et par la culture. Ils sont plus ouverts. Si ça leur plaît, ils applaudissent. Voilà. Et les petits-enfants sont très, très amoureux de l'opéra. Ils trouvent ça merveilleux. Déjà, ils sont très étonnés de rentrer dans une salle de spectacle et de voir qu'il y a des chanteurs qui puissent chanter dans un lieu aussi immense sans microphone. Voilà. C'est pas comme les chanteurs de rock. Le chanteur d'opéra a une voix très puissante. Et même s'il y a un orchestre comme les Wiener Philharmoniker qui joue très fort, ils peuvent s'adresser à toute la salle sans aucun microphone. Et donc, nous avons ici, chaque année, 45 représentations d'opéra créées spécifiquement pour les enfants. Ce sont des œuvres qui sont courtes, qui ne durent pas une heure. Donc on sait que c'est la limite d'attention pour un enfant, trois quarts d'heure, une heure. Et ce sont des sujets qui les intéressent et qui peuvent aussi donner lieu ensuite dans les écoles à des discussions. Et puis une fois par an, le lendemain de l'open ball, nous utilisons la grande salle de bal, donc décorée encore, pour faire deux représentations de la flûte enchantée pour les enfants. Avec le meilleur orchestre du monde, les Wiener Philharmoniker, les meilleurs chanteurs de l'ensemble, et une jolie mise en scène. Et il y a comme ça 7000 enfants qui peuvent assister chaque année à cette flûte enchantée pour les enfants. Et puis nous avons, pour les spectacles du soir, tout un tas de systèmes, par exemple des places à prix réduit pour les enfants et pour les étudiants. C'est très facile, il suffit que vos parents, par exemple, s'en occupent, ou que vous-même, d'ailleurs. Hein, quand on est adolescent, on peut s'en occuper soi-même. Moi, quand j'avais 18 ans, j'allais à l'opéra tout seul. S'intéresse à ces prix spéciaux. Et puis récemment, nous avons aussi développé un nouveau système. Alors ça, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un système de diffusion de l'opéra par Internet. Il y a un site, la Wiener Staatsoper, sur lequel on peut acheter des retransmissions d'opéra. Et ce système nous permet cette année, par exemple, de diffuser en haute définition et parfois dans le nouveau standard de ultra haute définition, UHD, 4K, 47 représentations d'opéra et de ballet. Et donc c'est un système merveilleux qui nous permet de nous adresser à tout le monde, pas seulement aux gens qui habitent Vienne ici, mais aussi aux gens qui habitent Vorarlberg ou aux gens qui habitent en Amérique du Sud, dans un petit village ou dans une vallée suisse où il n'y a pas d'autres distractions. On peut trouver nos représentations d'opéra. Et depuis peu, nous avons développé, avec ce système de streaming, un mécanisme qui nous permet aussi de créer des programmes pour les enfants des écoles. La semaine dernière, par exemple, nous avons fait un show stream et il y avait une quarantaine d'écoles qui étaient connectées, une quarantaine d'écoles autrichiennes et d'ailleurs d'écoles aussi à l'étranger.
C'est la fin du test de compréhension orale.